Vous êtes donc sur Radio Galère 88.9 et bienvenue dans l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire.
88.4.
Ouais, ça va.
Allez, ça commence.
C'est quoi 88.9?
Ça n'existe pas.
Mais si, c'est.
Mais non.
Mais c'est pas. Mais si, bref, peu importe. Putain,
allez.
Ils sont relous là.
Allez, ça commence bien.
Ok, donc bonjour. Et bonjour.
Et bonjour quand même.
88.4.
88.4, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous voulions vous proposer une émission sur l'histoire d'un quartier de Belzunce, au travers d'une musique, le Chaabi. À la base, on voulait faire une émission sur le Chaabi, et plus particulièrement sur le Chaabi algérien, un style de musique écouté par beaucoup de Chibani. Mais quelles que soient les affinités que chacun et chacune peut entretenir avec cette musique, n'est-ce pas, elle occupe quand même un espace important dans l'histoire populaire de Marseille, et de par son histoire avec l'autre rive de la Méditerranée, mais aussi par le caractère cosmopolite, et généreux que cette ville nous offre à voir. C'est beau, hein ?
Tellement, ouais.
Ouais, je sais. Donc c'est en recherchant un peu de la documentation sur le sujet qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose. On s'est souvenu d'un mec qui passait des vinyles dans un bar, place Louise Michel à Belzunce. On s'est souvenu qu'il avait la particularité de passer des disques de musique dite orientale. Plus vulgairement, ça causait un peu l'arabe aussi. Donc on s'est dit peut-être que ce mec il passe du Chaabi. On se souvient d'avoir aussi reconnu des morceaux qui nous sont plus ou moins chers. Et on se souvient aussi de Dahman Harachi, de Gerwabi, de Hajj El Anka, mais aussi de Rimiti et de Lili Labassi. Donc on a essayé de se renseigner pour voir s'il pouvait nous donner des pistes sur le sujet. Et en cherchant, on est tombé sur un site, Fossephone, où sont accessibles une pelletée de musique qui nous intéressait, mais plus encore. Le mec avait numérisé presque tous ses vinyles et nous les donnait en accès libre avec toute sa bête de collection. Là, en un clic. Vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe?
C'est les grues micro, en fait. Tout va bien.
Ok. Donc on s'est vite dit...
Un peu de concentration.
Ouais, c'est dur, hein. On s'est vite dit que c'était avec lui qu'il fallait causer, voire même pire, faire l'émission. Voilà le mec avec nous aujourd'hui. Bonjour Damien.
Salut.
Bonjour.
Donc il nous a aidé aussi à affiner ce sur quoi on voulait travailler. Et surtout, ça nous a permis de nous questionner sur là où en était la transmission de la culture populaire, en particulier dans les milieux immigrés, et ce qu'il en reste de cette histoire. Mais ça nous a surtout rappelé qu'on n'était pas des spécialistes et qu'on ne pourra pas s'attarder sur les nuances techniques du style. Donc ici, on appellera Chaabi la musique qu'écoutent les Chibani. Désolé, puristes.
On va s'écouter un petit disque tout de suite, le premier.
Non, en fait, non, on va pas mettre
de
disque tout de suite.
Ok, bon, on va pas mettre de disque tout de suite.
Il nous manque un élément.
Ok.
Donc l'élément va arriver. Donc on va parler avec Damien.
On peut déjà peut-être présenter le premier disque qu'on va écouter et l'artiste. Donc c'est Mazouni, 20 ans en France. Mohamed Mazouni, qui a été un des plus gros producteurs et vendeurs de cette époque de la musique. Qui vient d'être plus ou moins définie, dont les contours ont été dessinés. En gros, voilà, dans la période dorée qui a représenté la production et la vente de vinyle, c'est-à-dire les années 70, Mazouni a été un des plus gros vendeurs. Et il a aussi la particularité d'avoir enregistré à peu près partout, que ce soit en Algérie ou en France, sur tous les labels qui produisaient ce type de musique. Et donc avec un titre emblématique, j'utilise le mot emblématique, désolé, qui s'appelle 20 ans en France. Donc emblématique, bah, parce qu'il reprend, il condense en un seul titre à peu près tout ce qui constitue ce qu'on a appelé le corpus des chants de l'exil. Où dans ces musiques, que ça soit du Chaabi proprement dit, que ça soit des styles bédouis, que ça soit de l'algérien moderne, comme ici, on appelait algérien moderne à cette époque-là, un syncrétisme un peu de musique populaire de différentes origines, différentes régions de l'Algérie, et d'arabo-andalou, et même éventuellement aussi de musique occidentale, ou en particulier latino, ou, voire de rock, etc. Et donc, dans ce titre-là, 20 ans en France, il raconte ce qui a été un petit peu sa vie, mais ce qui était surtout la vie de son auditoire, c'est-à-dire celle d'un jeune arabe qui vient travailler en France. Donc voilà, la vie d'un jeune ouvrier. Et Mazouni, il a quelque chose qui est à la fois plaisant et qui déplaît à beaucoup de gens, mais c'est qu'il va nommer les choses de façon très directe. Donc il a pu être qualifié de chanteur vulgaire par beaucoup à cause de ça. Il ne manie pas la poésie, la métaphore, le second degré comme ont pu le faire hein, Darmanel Arachi par exemple, mais en nommant les choses de façon très directe, ben ça a eu énormément d'écho dans son auditorat. Donc dans 20 ans en France, il nous parle du chômage, il nous parle de l'alcool, il nous parle des bagarres, un quotidien pas très reluisant. Voilà, à tempérer, parce que Mazouni, ça lui a permis de s'extraire de ce quotidien aussi, tout ce qu'il a pu avoir comme succès grâce à ses 45 tours. Et donc celui-là, je le dis emblématique, aussi tout simplement parce que c'est un morceau qu'on m'a demandé lors de séances d'écoute publique, en particulier un papy qui ne se souvenait plus du titre du morceau, seulement de Mazouni, mais qui connaissait encore les paroles par cœur.
Ah oui, quand même.
Incroyable. T'as reconnu. Et ben, on avait une question à te poser au sujet de...
Oui, bah voilà, en fait, ce qui avait pu un peu t'amener à t'intéresser à cette musique arabophone, on va dire, du siècle dernier, et du coup, en particulier même celle qui a été produite par les labels de Belzance.
Alors, c'est vraiment le hasard, c'est le 45 tours. C'est en tombant sur une caisse de 45 tours au marché de la Plaine, donc pas forcément un endroit où j'allais chercher des disques. Et ben, dans cette caisse de 45 tours, derrière les habituels Claude François, Sardou, etc., il y a tous ces artistes que je ne connaissais pas qui étaient encore en vente. Donc les Mazouni, les Ralia, Derliassa aussi, et donc voilà, c'est vraiment par cette entrée-là. J'avais déjà un petit peu d'intérêt, mais les supports étaient difficilement trouvables. Grâce au premier album de reprise des chansons de ses parents, de Rachita.
Ok.
Voilà, c'est qui m'avait conduit à aller écouter Darmanel Arachi, qui lui avait été réédité en CD.
Ça, c'était un peu la porte d'entrée, quoi.
Donc là, on va pouvoir écouter donc la rappelle-moi son nom.
Mohamed Mazouni.
Voilà, merci.
20 ans en France.
20 ans en France.
Ça arrive.
Parce qu'en fait, oui, voilà. ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce sont des vinyles. Il a ramené ses vinyles. Ouais. Donc là, on a dit qu'on passait les musiques en vinyle. Ça marche.
Ça y est. Ah, ça crache un peu. Alors, ouais, on a nos techniciens qui s'affairent en régie.
Putain, ils sont fous.
Techniciens et techniciennes. Alors,
ah,
ça y est,
bon, c'est
parti,
bon.
C'est parti.
Non, c'est pas bon.
C'est pas parti. Ok, ça va le faire.
Yeah.
êtes toujours sur Radio Galère, 88.4. Alors, comme on parlait de musique et de Belzunce, on va tenter de faire un petit détour historique non exhaustif de Belzunce. Parce que l'histoire de ce quartier, on la trouve vraiment riche et intéressante quand on s'y plonge de plus près. Et qu'elle ne se réduit pas que à ce que l'histoire aime appeler à des vagues successives d'immigration. Parce que ce sont des milliers de personnes qui y passent ou qui s'installent pour des raisons qui peuvent être liées à des événements historiques, mais aussi à des histoires individuelles ou collectives. Et que cette histoire que l'on connaît peu a dessiné le quartier que l'on connaît aujourd'hui. On va pas rentrer dans trop de détails ici, parce qu'on va surtout parler de musique. La musique qui a été jouée et enregistrée à Belzunce, mais il y a un bouquin qu'on a trouvé intéressant qui s'appelle Marseille Transit, les passagers de Belzunce, d'Émile Témine, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc d'abord, Marseille, c'est un port où historiquement ont transité des négociants venant de la Méditerranée. C'est un lieu où on arrive d'ailleurs et c'est un lieu de passage, de transit. À la fin du 19e siècle, beaucoup d'Italiens arrivent à Marseille, mais aussi un peu plus tard, des Arméniens qui fuient les persécutions turques, des Russes, des Grecs, des chrétiens d'Orient. Le quartier de Belzunce, lui, il est situé entre la gare et le Vieux-Port. Et de par sa position dans la ville, il est en quelque sorte un lieu de rencontre pour ceux qui y arrivent et un lieu de passage, une étape pour ceux qui sont juste en transit pour repartir ailleurs. Donc il y a eu particulièrement dans ce quartier beaucoup de mouvements. À partir de la Première Guerre mondiale, la France a besoin de main-d'œuvre. Donc arrive à Marseille un bon nombre de travailleurs qui sont de passage, qui n'ont pas vraiment d'ancrage dans le quartier. Ils sont principalement des travailleurs d'Afrique du Nord et plus précisément algériens. Donc certains se sont fixés à Belzunce. C'est surtout des hommes seuls, parce qu'il n'y a pas encore de regroupement familial. Ça arrivera à partir de la fin des années 60, je crois. Et ils ont peu ou pas de revenus. Ils vivent à cette époque principalement près de la Porte d'Aix, de la rue Sainte-Barbe, la rue des Chapeliers, dans la zone située entre la Porte d'Aix et la Butte des Carmes. Donc le quartier, il s'est redessiné au reflet de ceux qui l'ont habité. Et se multiplie au fil du temps un grand nombre de cafés, de cantines et beaucoup de meublés bon marché. Donc par exemple une vingtaine rien que dans la rue Tubano. C'est des lieux pour y vivre, manger, dormir, des lieux de sociabilisation où on peut parler la même langue et avoir des repères en commun. Et aussi des lieux politiques pour s'organiser pendant la guerre d'Algérie par exemple. La Seconde Guerre mondiale, elle a occasionné beaucoup de ravages dans le centre-ville. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été abandonnés, abîmés, voire détruits. Et donc le quartier change et bouge encore. Certains le fuient. Donc la petite bourgeoisie qui était installée traditionnellement sur les deux rives de la Canebière commence à se déplacer à la périphérie de la ville. Et d'autres arrivent. Après la guerre et surtout après 1954, suite au mouvement de décolonisation. Donc des ouvriers d'Afrique du Nord, de Kabylie, d'Afrique subsaharienne, mais aussi des réfugiés de Tunisie, du Maroc et d'Égypte suite à l'affaire de Suez. Alors depuis, Belzunce continue de vivre et de changer, mais il est laissé à l'abandon et il est plutôt mal perçu dans la ville et ailleurs.
Ouais, Belzunce, c'est un quartier qui a depuis longtemps une mauvaise réputation, un quartier insalubre, les destructions d'îlots dégradés laissent place à des terrains vagues. Et dans les années 20, il y a un camp de baraquement même qui accueillait des réfugiés russes et arméniens du côté de la gare Saint-Charles. Ce quartier, il est connu, bon, à tort ou à raison, comme un endroit de prostitution, de jeux, de drogue et de crimes. Et puis sa population, qui est principalement pauvre et immigrée, eh ben, elle fait peur. On peut le lire dans les reportages de journalistes et écrits de politiciens d'un peu toutes les époques. Entre exotisation, peur, mépris et puis même dans une certaine mesure fascination. Justement, l'historien Émile Témime, il écrit dans Marseille Transit, les passagers de Belzunce, le constant renouvellement des immigrés ne permet pas véritablement la constitution d'une mémoire vivante. Et le rappel hésitant d'un passage éphémère cède souvent la place à un discours réducteur et dévalorisant, celui-là même qui restera dans le souvenir et qui contribuera à la longue à renforcer l'isolement du quartier, c'est-à-dire le discours des autres. Au sujet de la mémoire, il écrit dans le même livre « Misère, moment bref et peu glorieux que l'on s'empresse d'oublier et que l'on aime guère évoquer par la suite. Belzin, c'est pendant longtemps pour les arrivants un lieu qu'on quitte dès que la situation le permet. Donc toujours Émile Temim, quitter Belzin, c'est aussi abandonner la condition d'immigré. Et puis participe aussi à l'effacement de la mémoire, la destruction des îlots insalubres comme les rues des Chapeliers et Sainte-Barbe dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles constructions dans les années 70-80 qui accueillent des administrations, l'université, des immeubles d'habitation, ce qui amène des nouveaux types de population. Et puis le centre bourse qu'on connaît, qui détourne la clientèle des commerces traditionnels de Belzin. Donc tout ça, ça donne une nouvelle géographie physique et mentale du quartier, avec le cours Belzin et la rue d'Aix en ligne de démarcation entre le récent et l'ancien. Et puis pour en revenir à la musique, Belzin c'était aussi un lieu de divertissement. On y trouvait des ciné, des bals, des fêtes populaires, et puis bien sûr l'Alcazar, qui est aujourd'hui, qui est à l'époque une salle de spectacle et de concert. Et puis les immigrés algériens, pour la plupart, jouent et écoutent leur musique dans les cafés. Donc Damien, est-ce que toi, tu as rencontré des gens qui ont vécu cette époque de la musique qui était jouée dans les cafés, dans les cabarets à Belzin?
Alors, j'ai cherché à rencontrer essentiellement en m'intéressant au label, aux maisons de disques, à rencontrer essentiellement des producteurs. Des producteurs, j'en ai rencontré que deux. Pas forcément les plus représentatifs, au sens c'est pas eux qui avaient les labels les plus importants avec l'histoire et le catalogue le plus développé. En revanche, des gens, des auditeurs, le public de ces artistes et les consommateurs de ces disques, ça oui, puisque il reste toujours beaucoup de gens finalement qui sont installés dans le quartier. Ce qui allait un peu à contrario de ce qui vient juste d'être dit et aussi de ma propre représentation. Et ce quartier, il a aussi, même encore aujourd'hui, un peu gardé son pouvoir d'attraction, puisque c'était là le lieu de socialisation. Il y a des gens qui ont quitté le quartier pour un peu tous les autres quartiers de la ville, mais qui reviennent juste pour la socialisation. Voilà, donc dans les gens que j'ai pu rencontrer, celui qui m'a le plus raconté de choses, c'est Raymond Oujdi.
Ouais.
Raymond Oujdi, qui arrive en France en 62. Il est originaire de Oujda, au Maroc, comme son nom de scène l'indique. Et donc il arrive en France en 62, et il a déjà un sacré bagage musical avec lui. Il a déjà accompagné un peu toutes les vedettes de la chanson judéo-arabe, en particulier celle algérienne, donc les Lili Boniche, les Renette Loranaise, les Blonblon, etc. C'est comme joueur de oud. Et il était donc bien reconnu pour ça. Et donc quand il arrive en France, Belzin, pour lui, ça va être un quartier juste de passage. Vu qu'il avait les moyens, effectivement, il en est parti très rapidement, mais par contre, ça va être toujours son lieu pour recruter les musiciens.
Ah oui.
Et le lieu pour vendre ses disques, parce qu'il va très rapidement avoir envie de faire son propre label, même très rapidement, tout de suite,
ouais.
Après être allé faire une séance d'enregistrement pour, je crois, Pathé Marconi, enfin, des grands labels parisiens de l'époque. Quand il voit combien il est payé pour la séance, quand il revient à Marseille, il fait son label.
Il crée son propre business.
Voilà. Et okay. Donc, ces morceaux à lui, il va les enregistrer et les vendre tout de suite. Et donc, forcément, les vendre dans tous les magasins qui sont aussi souvent des éditeurs de musique qu'on trouve dans cette partie haute de Belzin.
D'accord. Et est-ce que tu as un peu, du coup, des éléments sur la place comment dire, la place des cabarets, des cafés à Belzin? Donc là où était jouée la musique, en fait.
Ouais, nous parler un peu de l'ambiance de cette époque-là.
Tout à l'heure, tu as évoqué le nom d'un cabaret aussi, quand on était en train de discuter.
Ah oui, donc voilà. Alors il faut séparer les cabarets qui étaient des endroits exclusivement dédiés au spectacle, et à la musique en particulier, et les cafés qui se retrouvaient cafés musicaux de fête. Donc ça, des éléments pas trop, puisque tout le monde dit ça jouait partout.
Ouais.
Ça jouait partout. Voilà. Pour ce qui est des cabarets, là par contre, il y en a un dont la devanture existe toujours, qui a rouvert quelque temps, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est le cabaret des Mille et une Nuits, sur le boulevard d'Athènes, en descendant de la gare. Qui lui ouvre au milieu de la période qui m'intéressait, c'est-à-dire celle de la production de vinyle à Marseille, qui doit être vers début des années 70, Mille et une Nuits. Sinon, je crois que c'était rue Vincent Scotteau, qui en avait un autre. Et encore un troisième, pas à Belsens même, mais je crois vers les Réformés. Donc là, c'était vraiment les cabarets.
Mais des cabarets quand même, cabarets populaires.
Populaire pour les Mille et une Nuits, vu les vedettes qui étaient reçues, il y avait forcément une sélection à l'entrée.
D'accord.
Et au niveau des tarifs, c'était au-dessus des cafés musicaux. Mmh. Quand je dis des vedettes, ça peut être donc des gens qui, sur leur seul nom, attiraient énormément de monde. Je pense en particulier aux vedettes égyptiennes, très connues grâce au cinéma. Et alors, par contre, on a un témoignage écrit sur les cafés. Quelques lignes très courtes dans le Docker noir de Ousmane Samben.
Ah oui, ouais.
Qui lui ne nous parle pas des pratiques musicales et culturelles des gens d'Afrique du Nord, mais des gens des anciennes colonies francophones ou encore colonies, puisqu'il a été écrit en 49, je crois, le Docker noir. Et donc, il nous raconte
d'Afrique de l'Ouest, donc.
Voilà, d'Afrique de l'Ouest, Golfe de Guinée, et qui raconte la succession des cafés dans la partie haute de Belsens, encore, je crois, vers la rue des Petites Maries.
Ouais, c'est ça.
Dans tel endroit où on chante en Bambara, dans tel endroit où on chante en Lingala. Où voilà, c'était pas par nationalité, mais par ethnie, donc par langue.
D'accord.
Alors peut-être que là, tu nous avais proposé un disque, là, c'est celui de donc Raymond.
Raymond Gilles.
Et son label, c'était comment?
C'était Ouche Disque.
Ouche Disque.
Voilà, il s'est pas fatigué pour trouver le titre.
Ah non.
Alors, est-ce que... Alors, il y a un petit débat. Est-ce qu'on écoute Raymond Oujdi ou est-ce qu'on écoute...
On écoute Raymond Oujdi.
Ah, ben, on vient de parler de Raymond Oujdi, alors donc on va écouter...
C'est l'occasion.
Alors là, on a foutu le bordel dans la régie. Ah, parce qu'en fait, il faut changer le disque, qui était déjà prêt. Donc, ils étaient très contents. Voilà. Et nous, on a tout merdé.
Au platine, ouais.
Désolé.
Donc, Raymond Oujdi, qui a fait ce label-là, un label qui est resté très modeste. En revanche, ça a été un animateur des soirées marseillaises depuis le Belsens jusqu'à la Corniche et au 16e, jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Donc lui, il a laissé énormément de souvenirs.
Un animateur en tant que musicien.
Oui, donc ça s'exportait au-delà de ce quartier.
Oui, voilà, il a laissé vraiment énormément de souvenirs. Et donc lui... D'origine marocaine, mais comme j'ai dit, il a joué beaucoup avec des Algériens avant d'arriver en France, et il savait s'adapter à son public. Il a fait une chanson où il y avait une dédicace pour toutes les régions d'Algérie.
Toutes les régions d'Algérie, il a voulu froisser personne. Là.
Voilà.
Et ben on va écouter Raymond Oujdi alors.
Eh bibi, d'y aller.
يفهموا
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM, c'est l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. Alors, on parlait de l'importance des labels de musique qui étaient basés à Belzunce, bah justement pour la production de musique du Maghreb. Parmi ces labels, on peut citer le label Tam Tam, qui était fondé par Jacques Derderian, d'origine émigrée lui aussi, mais donc lui d'Arménie. À l'origine, c'est à la fin des années 20, un magasin d'électrophones. Et par la suite, il se lance dans la production et la vente de disques en enregistrant avec des moyens sommaires, au final, des musiques kabyles, oranaises et charabies qui correspondent à l'évolution de la population du quartier. Tam Tam Disc, c'est un label qui a fait la part belle aux musiciens juifs originaires du Maghreb, avec par exemple un 45 tours du chanteur marocain Jo Amar, où il décrit et il chante le rituel de Pessah, donc c'est-à-dire la Pâque juive. Jacques Derderian, il stoppe ses activités au début des années 70. On trouve rue des Petites Maries le label et magasin Sudiphone, qui est lié au distributeur Sud, et dont l'activité consistait principalement, ou en tout cas en partie, au rachat de licences d'autres labels pour les sortir en France, que ce soit des petits labels comme Zed El Youm en Algérie ou des grosses boîtes comme Philips. On avait aussi Sonia Disc, qui était au 29 rue du Baignoire, et c'était aussi un magasin de disques et un label, et qui a publié des stars de l'époque comme Mohamed Mazouni, qu'on a écouté tout à l'heure, ou Darman El Arashi, qu'on écoutera sûrement. La boutique, elle déménage à Barbès à la fin des années 70. Et puis enfin, on en parlait tout à l'heure, on peut parler du label Oujdisc, qui lui était plutôt basé du côté du quartier Sainte-Anne. Il a été créé par le musicien marocain Raymond Azoulay, connu aussi sous le nom de Raymond Oujdi. Et donc c'est un monsieur qui a émigré, on le disait tout à l'heure, de Oujda pour s'installer à Marseille dans les années 60. Et c'est aussi un musicien de oud et un chanteur reconnu, plutôt dans le style arabo-andalou. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a aussi joué aux côtés de grands noms de la musique, on le disait tout à l'heure, de la musique algérienne. Alors d'après ce que j'ai compris, sur son label, il publiait que des chansons qu'il enregistrait lui-même.
Voilà,
c'était vraiment de l'auto-édition, en fait.
C'était une activité sans doute secondaire et mineure par rapport à son activité principale, qui était de donner des concerts. Et son activité professionnelle, qui était conducteur de tram.
Ok. Voilà.
Ça n'a absolument rien à voir. Mais bon.
Et ce que j'ai pu lire un peu en faisant des recherches pour l'émission, c'est que le charabi, ou en tout cas peut-être plus, enfin le charabi en particulier, de ce que j'ai pu lire, c'était une musique qui était beaucoup écoutée, beaucoup jouée. Beaucoup écouté dans les cafés, beaucoup joué dans les cafés, mais assez peu au final enregistré, assez peu pressé sur vinyle. Est-ce que tu as une idée de la raison?
Pour affirmer ça, déjà, je me suis basé essentiellement sur Tam Tam et sur les dos de 45 tours où on a des extraits de catalogue. Donc à force d'avoir des 45 tours, on a pu reconstituer quasiment le catalogue Tam Tam au complet, et on s'aperçoit qu'effectivement la musique, le shahabi algérois proprement dit, sur Tam Tam par exemple, il n'existe pas du tout.
D'accord.
Alors que c'est le catalogue qui a eu sans doute la plus grande durée d'existence, qui n'a pas le plus grand nombre de sorties, mais qui était producteur de toutes ces sorties. C'est-à-dire que non seulement il choisissait de publier tel ou tel artiste, mais il les enregistrait aussi. Voilà. Donc il avait une place très importante, comme son magasin qui avait pignon sur rue avait une place importante. Alors pourquoi ça ouvre plein de possibilités de questions. Déjà, les grands noms du shahabi, ils sont restés à Alger essentiellement. El Anka, c'est même patrimoine national, il a été quasiment institutionnalisé dès après l'indépendance, El Anka, en étant en passant très régulièrement à la télévision algérienne. On peut peut-être voir ça aussi par l'adaptation commerciale, où il voyait ce qu'écoutaient les gens dans les cafés, et même si le shahabi était une musique dominante et très reconnue, Il y avait aussi beaucoup de styles purement ruraux, donc essentiellement venus des traditions bédouines, c'est-à-dire principalement le genre oranais, ce qui va donner naissance plus tard au raï, qu'on appelle des fois raï traditionnel, et les musiques chaoui, voilà, qui sont des communautés très présentes à Marseille. Et bien évidemment, le style kabyle, qui lui, c'est non seulement un genre musical à part, mais avec, avec une langue différente.
Ouais.
Donc la, la question de l'oralité, c'est aussi que c'est de dire aussi que c'est un c'est une musique et c'est un esprit qui est lié à l'instant aussi et au moment de l'échange et non pas qui se distribue. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose qui est, dont la volonté n'est pas forcément de la transmission, mais de vivre l'instant au moment où c'est joué, quoi.
Oui, oui, oui. Et bah, d'ailleurs, ça, ce que tu dis, ça vient confirmer ce que pas mal de musiciens ont dit. À savoir que les 45 tours, pour eux, étaient presque quelque chose d'éphémère. C'était plus pour gagner un petit peu de sous à la fin des concerts, mais surtout pour faire la promotion, pour que les gens viennent au prochain concert.
Ah ouais. Donc en fait, c'était un peu accessoire, quoi.
C'est le Twitter,
voilà,
d'avant.
Dans l'esprit de beaucoup, c'était vu un peu comme accessoire, l'objet de luxe étant plutôt le 33 tours.
Ah ouais.
Bon, alors après du chabi algérois proprement dit, on va en avoir quand même. Alors donc pas sur Tam Tam, mais chez Sonia Disc, qui va racheter les droits, ou peut-être pas les racheter d'ailleurs, peut-être que ça sera pirate, pour d'Armen El Arachi, qui a enregistré chez Pathé Marconi, et après pour le club du disque arabe, pour les sortir sous son propre nom, alors que c'est des enregistrements qui étaient tout à fait disponibles par ailleurs, puisque distribués largement sur le sol européen.
Ok, et mais je me souviens avoir lu aussi dans une de tes interviews que tu disais que au final on avait très peu d'infos sur ces labels, que ce soit sur internet ou dans des livres. Et est-ce que pour toi ça a une espèce de résonance avec la mémoire de l'immigration en France?
Ah ben c'est venu directement, parce que ben quand j'ai acheté ces disques, d'abord j'ai vu les adresses parisiennes, Barbès, Belleville essentiellement, et c'est ensuite quand j'ai vu que j'en accumulais petit à petit des disques qui étaient produits à Marseille et à Belzunce, c'est même à Belzunce, dans la partie haute de Belzunce, vraiment c'est très 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 sectorisé, que j'ai commencé à chercher des renseignements, et que j'en ai trouvé absolument aucun. Et que ben, je me suis rendu compte que je faisais de l'histoire des immigrations sans le savoir, et qu'au moment où j'ai commencé ça, ben, c'était un processus qui était aussi engagé, mais qui n'est apparu publiquement dans l'institution qu'avec l'ouverture de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, devenue Musée de l'immigration depuis, dont la première exposition était l'expression culturelle des Maghrébins en France. Voilà. Et donc, En cherchant tout ça, je me suis rendu compte très vite que, oui, le flux migratoire était récent, au moins on abordait la dimension culturelle, et que même quand il était plus ancien, voilà, on abordait sous des angles économiques, sociaux, politiques, policiers, parce qu'on a beaucoup de chiffres via les préfectures de police, mais les pratiques culturelles, c'est quelque chose qui est fait très très récent dans la société française. Si on prend le cas des Arméniens, donc dans les flux migratoires du XXe siècle, ce sont les premiers à avoir enregistré des disques à Marseille, sur 78 tours, avec fin des années 40, début des années 50, avec le label Ararat. Et alors les Arméniens, eux, à la différence notamment des Algériens, ils savaient qu'ils n'allaient pas retourner dans leur pays d'origine.
Ouais.
Donc les pays d'origine, ça va du Liban à l'Arménie, en passant par la Turquie, hein, c'est très très vaste. Donc ils ont conservé leur mémoire, aidés en cela aussi par une communauté arménienne qui était déjà dynamique et structurée
et soudée
depuis le 19e siècle. Voilà, le plus gros journal écrit en arménien a été publié à Marseille à la fin du 19e siècle. Donc ils ont été aidés par ça, mais la mémoire est restée à l'intérieur de la communauté.
Ouais.
Ça a très très peu diffusé.
Voilà. Sur la question de l'oralité, en tout cas, et sur la manière dont les sujets abordés dans les... Enfin, on peut peut-être un peu évoquer aussi les sujets abordés dans les chansons, parce que du coup, on parle de culture, mais aussi on parle d'exil, on parle... Je sais pas, peut-être qu'on peut dire deux, trois mots sur le sujet des chansons en général, l'amour.
Oui, bah ça, comme dans toutes les chansons du monde, c'est un des thèmes majeurs. Je sais pas, c'est Brassens qui disait l'amour, la mort, l'amitié. Après, vous avez fait quasiment le tour de tous les sujets de chansons.
Enfin, surtout lui, ouais.
En particulier. Et ben, j'ai employé tout à l'heure le terme de chant de l'exil, quasiment déposé par l'historienne Naïma Yahi, qui était la commissaire d'exposition de cette exposition Expression culturelle des Maghrébins en France, donc qui a été la première à rendre publique cette histoire-là au milieu d'une institution et dans des travaux universitaires. Et donc voilà, chant de l'exil, effectivement, pour toute la chanson maghrébine, mais algérienne en particulier. Il va y avoir cette thématique des douleurs ressenties à cause de l'exil, que ça soit celui qui est en exil ou ceux qui sont restés au pays et à qui celui est parti manque. Voilà, forcément. Donc il y a cette thématique-là qui est très présente. Et un côté social aussi, quand même assez marqué, pas dans la revendication, mais juste dans la description. Mm-hmm. Ben, comme on a eu tout à l'heure Mazouni, 20 ans en France, dans ce que ça pouvait représenter pour un jeune ouvrier de se retrouver confronté au chômage, au racisme, aux tensions et aux bagarres entre ouvriers, à l'alcoolisme aussi.
Tout ça, c'est beaucoup du quotidien. Ça fait penser aussi à un morceau qu'on avait écouté en préparant l'émission de Salah Sadawi. Et enfin, même plusieurs, où en fait, on a vraiment l'impression d'une espèce de musique algérienne chantée à la fois en arabe et en français, et qui décrit vraiment du quotidien, le quotidien des immigrés, en fait.
Pas très heureux.
Non, pas toujours heureux, non.
Non, globalement pas très heureux, avec souvent... de l'humour, une petite pirouette à la fin d'un couplet ou à la fin de la chanson. Mais dans l'ensemble, oui, il y a le côté catharsis de la musique qui, là, est évident parce qu'il transparaît dans les paroles, effectivement.
Alors peut-être qu'on va réécouter, on va écouter On en est au combien ? Troisième morceau ?
Troisième.
Alors, est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur le morceau ? Et sur la personne qui chante surtout.
Voilà, alors ben, on parlait des labels, c'est l'occasion de parler juste rapidement du label Sudiphone, qui alors lui a été le plus important en termes de volume, et ça c'est une spécificité marseillaise, c'était un gros distributeur. Ben Marseille, qui a joué là son rôle comme pour les autres marchandises, pour les marchandises culturelles aussi, c'était une interface entre les anciennes colonies, puisque c'est essentiellement avec ces pays-là qui avaient du commerce, et les productions qui étaient faites sur le sol français. Et ça marchait aussi dans les deux sens. Voilà. Okay. Donc c'est-à-dire que Sud importait des choses qui étaient produites en Algérie, au Maroc et en Tunisie, pour les revendre en France et en Belgique, et inversement des choses qui étaient produites sur le sol français, qui repartaient vers ces pays-là. Et donc voilà, ça c'est une spécificité, parce qu'on a ce gros label qui est aussi un gros distributeur. Et donc on voit, ben, Émile Temim avait été heureusement surpris d'apprendre que ça concernait aussi les marchandises culturelles, ce qui a été appelé le triangle d'or jusqu'au milieu des années 80. Donc on va écouter El Ralia, une chanteuse d'origine chaoui, donc du sud de l'Algérie. Thank you.
Qui ne fait pas d'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau qu'on vient d'écouter?
Voilà, alors la chanteuse El Ralia, qui était vraiment toute jeune, c'est tout début, Originaire du Sud. Et ce qu'on disait, c'est que comme le morceau qu'on a écouté en début d'émission, 20 ans en France de Manzoni, il est très représentatif de ce genre qui a aujourd'hui disparu, mais qui a fait florès à l'époque, qui était algérien moderne. Donc algérien moderne, c'était une fusion de genres essentiellement ruraux, donc très liés à des régions, des éléments de l'arabo-andalou. Alors là, dans ce morceau, on n'a pas entendu, mais dans le morceau de Mazouni, il y avait l'introduction, le taksim, la longue introduction instrumentale, qui vient directement de l'arabo-andalou, surtout dans la forme où elle était présentée. Et là, avec El Ralia, là, c'est les rythmes un petit peu, mais surtout la mélodie, qui est typiquement chaoui. Chaoui déjà urbanisé, hein, déjà passé par Sétif. Oui, je crois que c'est Sétif pour El Ralia. Et avec des instruments, alors là, pour le coup, qui ne sont pas du tout ruraux. On a entendu notamment le kanoun, la harpe posée à plat, qui dans les campagnes n'existait absolument pas.
D'accord.
Donc ce genre-là, pendant 15-20 ans, il va être dominant en termes de production.
Et donc c'est un mélange en fait.
Et de vente, voilà.
C'est de plusieurs styles.
De plusieurs styles, et avec chaque fois une coloration assez forte suivant l'artiste et qu'est-ce qu'il porte comme patrimoine régional, mais toujours. Des instruments qui ne sont pas du tout liés au style en particulier, et avec toujours aussi une influence très forte venue de Égypte et Liban, du Moyen-Orient, donc qui représentait pas seulement musicalement, aussi politiquement, socialement, la modernité à l'époque.
Okay. D'accord. Et tu disais avoir quelques anecdotes un peu pour revenir sur l'histoire des labels de Belzunce. Peut-être.
On a cité les principaux labels en termes de sortie, Tam Tam, Sud et Sonia Disc, mais il va y avoir aussi donc des petits producteurs comme Raymond Jly et plusieurs magasins qui vont aussi essayer de saisir cette opportunité et qui vont avoir une, deux sorties. Par exemple, on a le magasin qui s'appelait Sot El Arab, La Voix des Arabes, qui va sortir deux disques de musique. Alors là, purement rural, chaoui. Et c'est tout, a priori.
D'accord.
Bon, peut-être qu'aussi, ils ont eu un procès avec le gros label Sot El Arab, qui était basé au Liban. C'était peut-être aussi une erreur.
Et c'est qu'il y avait une facilité à l'époque pour enregistrer de la musique ?
Justement, les conditions d'enregistrement, on était très loin de choses modernes, des grands studios et des grands studios auxquels des vedettes comme Darmen El Arachi, par exemple, avaient eu accès avec en enregistrant pour Pathé Marconi, ou qu'est-ce qu'il y avait comme autre firme des majors, on disait à l'époque, il y avait Barclay, voilà, et président, c'était une petite firme, et Tepaz. Tepaz qui faisait aussi les disques. A fait de la musique de très grande qualité, et donc là le studio, le studio correspondait au magnétophone et à l'endroit où on posait le magnétophone. Donc pour Tam Tam, ça c'est le chanteur Lili Cherki qui a été un des premiers enregistrés pour Tam Tam, qui racontait que le studio c'était la brasserie Le David qui est au Prado, dont le patron de Tam Tam connaissait le gérant, et qui un dimanche après-midi il leur a ouvert pour enregistrer. Les gens de Sonia Disque disaient c'était une cave, c'était un appartement, avec toujours la difficulté de l'humidité et des pots, des tambours qu'il fallait chauffer, chauffer, voilà, et des fois arrêter un morceau de 5 minutes parce que la peau s'était trop détendue au milieu du morceau. Donc voilà, des conditions de production, d'enregistrement plutôt, précaires, mais pour Tam Tam en particulier, on voit aussi la science du producteur avec un magnétophone de piste et donc deux micros arriver à enregistrer, à rendre une qualité sonore quand même tout à fait acceptable. Pour d'autres labels Sonia Disc, souvent c'est un peu moins le cas. Et après il y a la facilité de production, où ça effectivement pour faire presser un disque, il y avait des usines de pressage en centre-ville Et des usines pour fabriquer les pochettes aussi, des imprimeurs.
On se trouvait de Marseille, il y avait des usines de production de vinyle.
Voilà, voilà, ah, il y avait des presses à vinyle. Donc on a retrouvé une seule trace dans le 8e, certaine, mais là aussi la mémoire orale peut se tromper, mais elle peut pas avoir forcément tort surtout.
Ouais.
Et surtout quand il y a autant de témoignages qui disent oui, il y avait des presses. Voilà.
D'accord.
Et la cassette est arrivée.
La cassette est arrivée quoi, dans les années 80?
Fin des années 70.
Fin des années 70. Et en même temps, il y a eu un changement au niveau de la musique, en tout cas de la musique du Maghreb avec l'arrivée du rail.
Voilà, mais ça correspond à peu près chronologiquement. Effectivement, la cassette, elle existait déjà depuis la fin des années 60. Depuis le début des années 70, les éditeurs avaient commencé à travailler leur catalogue sur cassette. Mais c'est avec le fait que deviennent accessibles les radiocassettes. Mmh. Voilà. Qui deviennent beaucoup, beaucoup moins chers très rapidement qu'un équipement pour utiliser des vinyles, que ça va se développer vraiment. Et effectivement, ça correspond à l'arrivée. Alors là, on peut parler de vagues et de déferlantes en ce qui concerne le rail. Voilà, autant en ce qui concerne l'immigration, parler de vagues, il peut y avoir un côté très péjoratif, parce que la vague, c'est aussi ce qui peut détruire, ça peut être un tsunami. Pour le rail, ça a été vraiment un tsunami, puisque ça a détruit quasiment, ou alors rendu microscopique, quasiment tous les labels qui existaient.
D'accord.
Donc non seulement c'est un nouveau genre musical qui apparaît, donc des nouveaux artistes, puisque les Mazouni, les Deryassa, les El Ralia ne prennent pas le chemin du rail, qui était donc le rail... à l'origine, donc qui vient des traditions rurales de l'ouest de l'Algérie, la région d'Oran en gros, même si c'est plutôt Sidi Belabbès en fait. Et ce qu'on appelle rail aujourd'hui, c'est quelque chose qui naît par contre de façon très urbaine, oui, à Sidi Belabbès, Oran, etc. Entre la rencontre de ces traditions musicales. Avec des instruments occidentaux, donc batterie, guitare électrique, et le premier grand chef d'orchestre du rail qui va produire tous les premiers succès, Belémou, qui était un trompettiste, donc qui apporte une couleur musicale totalement nouvelle, et ça va mettre quelques années avant de s'imposer, et donc oui, quand ça arrive vraiment très très fort à Marseille d'abord. C'est Rallet qui l'écrit dans son autobiographie, la deuxième capitale du rail après Oran, c'est Marseille. Voilà, puisque c'est ici qu'il va s'établir, qu'il va rester longtemps, alors qu'il avait déjà du succès sur le sol français, voire même en Europe. Donc voilà, un changement complet de production, et aussi un changement dans le public, parce que la fin des années 70, ça correspond aussi au regroupement familial, au moment où l'État français comprend que tous ces gens qu'il a fait venir, pas tout seul, hein, l'État algérien était tout à fait d'accord pour envoyer des ouvriers, où l'État français se rend compte que ces gens-là ne retourneront pas comme espéré, souhaité, attendu, en Algérie, et qui donc leur permet de faire venir leur famille et leurs enfants. Et donc il y avait déjà des familles et des enfants, mais l'immigration était quand même une histoire d'hommes ouvriers. Et donc ça va changer aussi le public.
Donc encore une fois, ça change avec la socialisation, ou la population quoi du public, ouais.
Ouais, on est vraiment un basculement. Alors après, qu'est-ce qui tient à quoi? Il faudrait dénouer des fils. Ça va être très très compliqué.
Ce que tu disais aussi sur le fait qu'avec la cassette, il y a pu avoir des radiocassettes. Et je pense que sur les pour écouter des disques, en fait, peu de personnes en étaient équipées, et du coup, ça s'est beaucoup moins diffusé. Et donc, j'imagine à Marseille, Belzunce aussi, Tu dis que Marseille était la deuxième capitale du rail, c'est qu'à ce moment-là, ça s'est développé principalement sur cette ville-là, parce que...
Pour les liens historiques avec Oran, même si c'est aujourd'hui c'est plus tellement vrai, il y a plein de gens de 60, 70 ans et plus qui m'ont dit les Algérois vont à Paris, les Oranais vont à Marseille.
D'accord.
Même si ça a beaucoup, beaucoup changé depuis. Donc il y avait des liens historiques. Belzins, lieu de divertissement, ça correspondait très bien aussi à l'image qu'a Oran et qu'a Mastonné Oran. Mmh. Où les cabarets de la Corniche, c'est un phénomène qui n'a pas existé ailleurs, si ça a existé, mais pas de façon aussi développée ailleurs en Algérie. Il y avait ces conditions-là. Et puis, dans l'histoire de la cassette, il y a aussi tout simplement la facilité de reproduction après aussi.
Eh oui.
Voilà. De copie.
De on peut copie. Le faire chez soi.
Copie, voilà, copie privée, mais copie semi-officielle aussi, où jusqu'à la fin de la cassette, quand on allait acheter une cassette, souvent le patron du magasin copiait directement la cassette à partir de son édition originale. Voilà.
Okay. Et en parallèle, ça a dû continuer en tout cas à exister dans les cafés, tous les concerts, toute cette musique qui était enregistrée, même après l'arrivée du rail et de la cassette.
Ah oui, oui. Alors là, par contre, effectivement, le Chaabi algérois et les musiques d'inspiration bédoui ont toujours eu, jusqu'à il y a une dizaine d'années, une présence très régulière dans les cafés de Belzins. Oui, ça c'est certain.
D'accord. Donc autant ça, c'est un peu. Enfin, peut-être que je me trompe, mais ça a un peu déclenché l'arrêt l'arrêt des activités des labels dont on vient de parler. Autant ça a continué quand même au niveau de la musique en concert, quoi.
Oui, et puis et après il y a des labels qui ont pris le relais,
ouais.
Qui ont produit des cassettes. Donc pour l'amateur le mélomane d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins solide une cassette.
Ouais.
Donc le vinyle a cet avantage-là aussi. Mais il y a eu énormément de production et des chiffres de vente sans doute à multiplier par 3, 4, 5 facilement par rapport au disque vinyle.
Oui. D'accord. Donc en fait, un peu toute l'histoire des labels dont on a parlé, des années en gros 50 à fin 70, on pourrait raconter un peu la même chose sur des labels de rail de la fin des années 70 à peut-être aujourd'hui, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je crois que c'est terminé.
Ouais.
Voilà, à proprement parler, l'édition musicale, il me semble qu'il en restait un qui était encore éditeur musical, mais qui faisait plus que tourneur, en fait.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Mais sinon, les dernières éditions musicales dans ce domaine-là, à Marseille, qui ont donné lieu à un support physique, parce qu'après, évidemment, il y a eu la dématérialisation, donc
c'est
plus difficile à repérer et à quantifier. Ça doit être, au début des années 2000, je pense.
Mais il y a aussi les lieux de rassemblement qui, avec le temps, se sont complètement... ont disparu, quoi. Aujourd'hui, on ne joue plus de musique dans les cafés. Pour autant, donc, sur la question de la circulation de la musique, ça a changé aussi.
Oui, mais ça, c'est un truc qui est en cours. Aujourd'hui, c'est fini, mais ça s'est fini de façon brutale. On va savoir pourquoi. Mais bon, l'histoire de la musique amplifiée n'est pas pour rien. Mais ça a continué. Ça a continué, voilà, parce que... Ce qu'on disait en privé, le dernier concert Chaoui que j'ai vu, c'était sur le boulevard d'Athènes, il y a une dizaine d'années à peu près. Mm. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose que musicalement est moins riche, mais tout à fait typique, le chanteur de rail avec son clavier, éventuellement avec un percussionniste à la verbouka, c'est quelque chose qui était quand même assez fréquent, qu'effectivement on ne voit plus.
D'accord,
on ne voit plus.
Eh bien, en fait, cet été et les étés précédents, il y avait un groupe d'hommes qui jouaient le soir sous la halle au Vieux-Port. Enfin, je ne sais pas si tu vois, il y a une trompette, une darbouka, et qui a essayé de Enfin, on voyait bien qu'ils essayaient de... Tu voyais qu'ils venaient d'une histoire, quoi, puisqu'ils invectivaient les gens. Et lorsqu'il y avait, par exemple, un groupe de gens, ils allaient vers eux pour leur dire « Bon, bah, alors, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, ils chantaient, genre, les louanges de ce groupe-là. Ils se faisaient mettre un billet dans le caleçon. Enfin, vite fait, quoi, tu vois. Pour, genre, qu'ils en mettent encore plus sur... Et donc, il y a quand même encore un petit truc comme ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait... Et j'ai jamais vu ça ailleurs en France qu'ici. Ah hein. Bon. De ces groupes de garçons, d'hommes, quoi, qui font de la musique pour les gens et en prenant des choses de leur histoire directement et individuellement. Donc, ouais, je sais pas.
Alors, ben, oui, ça existe encore, mais ben, je pense que pour parler vraiment du quartier de Belzunce, oui. Il faut avoir de la chance de voir encore ça. Des concerts, comme tu décris, ça c'est en banlieue parisienne, que j'en ai vu plus régulièrement. Un chanteur kabyle, Ali, basé à Marseille, j'ai oublié son nom de famille, désolé, qui a pu donner d'ailleurs des concerts comme ça, dans des quartiers excentrés de Marseille, dans le 15-16, dans les quartiers Est, etc. Voilà, c'est... Oui, pour ça, là, effectivement, là, on peut dire que Belzunce a perdu ce caractère-là.
Alors, peut-être qu'on va écouter Shirazuzu Relizania. Attends, je l'ai dit.
D'un seul coup. Donc, paru sur Tam Tam, ça, c'est une des rares sorties Tam Tam qui ne soit pas une production maison. Ça a été enregistré en Algérie sur le label Atlas, et là aussi, encore, il a racheté les droits. Donc, Shirazuzu Relizania, c'est une bonne représentante du style dont on vient de parler, le bédoui oranais, c'est-à-dire le raï traditionnel, où ben, on retrouve une instrumentation percussion, flûte et voix, très simple, et des thématiques de l'ouest algérien et de l'extrême nord-est marocain qui sont assez typiques de cette région, et qui vont d'ailleurs beaucoup contribuer au succès du pop-raï, donc le raï avec de l'instrumentation, où l'on parle très librement des relations amoureuses et sexuelles, avec quand même de la métaphore, mais bon, la métaphore facile à décrypter si on comprend la darija, le dialecte.
Et un peu comme Rimiti.
Voilà, Rimiti, c'est la grande dame de ce genre-là. Et Shirazuzu Relizania, c'est assez peu connu, mais à mon goût, une assez bonne représentante.
Eh bien, on écoute ça.
أسطوانات أطلس تقدم شيرازوزو الغليزانية وكساسبا الأزرق الغليزاني وجلو المسغالمي. Yeah.
104 FM, l'émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire. On vient d'écouter Shira Zouzou. Voilà, donc on parle des labels qui produisaient de la musique du Maghreb, principalement à Belzance. Ces labels, ils ont aussi, certains de ces labels en tout cas, on n'avait pas que dans leur répertoire que de la musique du Maghreb, on avait aussi, comme Tam Tam Disc, de la musique par exemple d'Afrique de l'Ouest, c'est ça ?
Voilà, et c'est, tu fais bien de le souligner, c'est une autre spécificité marseillaise. Par rapport au gros label parisien, celui de Salah Sadaoui, comme évoqué tout à l'heure, ou le Club du Disque Arabe, qui avait donc un catalogue uniquement arabophone et berbérophone, Tam Tam Disque, qui va, par son catalogue, refléter ce qui s'est passé dans le quartier de Belzance. C'est-à-dire que donc au catalogue de Tam Tam Disque, on va avoir aussi un disque de Haute Volta, avant que ça devienne le Burkina Faso. On va avoir deux disques du Sénégal et un chanteur malien également. Donc c'était certainement pour répondre à une demande de ses voisins, tout simplement, puisque les cafés étaient voisins. Et alors il y a des gens qui ont évoqué aussi l'idée que c'était peut-être une réponse, pas à un marché local, mais juste à des gens de passage qui profitaient de l'occasion pour ramener des disques au pays. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on peut citer aussi le cas de Sonia Disque, donc alors lui qui a essentiellement un catalogue lié au Maghreb, mais qui va être qui va publier aussi un chanteur arménien basé à Marseille, dont personne ne se souvient. On se souvient de ses accompagnateurs, mais plus du chanteur.
Ah oui.
Et Sonia Disque aussi, peut-être juste parce que identifié comme un petit label entre guillemets, donc peut-être plus accessible, on va trouver aussi un enregistrement de Beethoven par la chorale à cœur joie, qui existe toujours à Aix-en-Provence, ou des enregistrements de chants d'enfants d'un collège du 13e arrondissement. Donc il y a cette mixité qui est souvent fantasmée à Marseille, mais qu'on retrouve sur les catalogues, ce qu'on ne retrouve pas ni à Paris ni à Lyon.
D'accord.
Ok, on va peut-être conclure. Pour conclure, on voulait juste rappeler que l'histoire qui nous est transmise aujourd'hui par les institutions n'en est qu'une partie, qu'elle est souvent choisie pour garder ce qui arrange les belles affaires de ceux qui ont le pouvoir, et qu'en occultant la diversité de l'histoire populaire, les dirigeants se préservent de notre appropriation légitime de nos destins et de fait de nos vies. Donc c'est un acte politique fort de revenir sur ces histoires et d'en faire des outils pour continuer à perpétuer ce point de vue. Oui, pour nous, c'est la base. Voilà. Donc ça touche à sa fin. On voulait dire un truc. On voulait ou on voulait pas ?
On voulait pas.
D'accord.
On a parlé un peu sur le blog de site Fossefan. Peut-être qu'on peut...
Tout à fait. Alors, il a Damien. Ouais. Un site internet qui s'appelle Fossefone, je te laisse en parler.
Voilà, qui est plus très actif pour des raisons qui ne sont pas très intéressantes, donc je ne vais pas développer. Mais on peut, pour les liens qui fonctionnent encore, on peut encore écouter la musique. Et ça, quelque chose que j'avais fait spécifiquement pour la musique du Maghreb, parce qu'à l'époque, YouTube n'était pas aussi développé. On peut voir les pochettes dans des images de bonne qualité. Ce qui, même quand on trouve une chanson sur YouTube, on ne va pas forcément tomber avec la pochette du 45 tours original. Et ces pochettes-là, outre leur intérêt artistique et émotionnel, souvent elles portent des informations et elles portent de l'histoire également.
Donc voilà. Juste pour préciser, donc ton blog, c'est là où tu mets en ligne les disques que tu as trouvés, que tu as numérisés, nettoyés.
Voilà, une sélection.
Pour partager.
Ouais, c'est quand même...
Il faut aller voir.
Merci pour la transmission.
Merci pour l'invitation.
Ouais. Je t'en prie. Et juste, on va se quitter quand même avec le maître, enfin, l'un des deux maîtres, avec Gerwabi, du Shaabi.
Non, pas Gerwabi.
Non, mais je sais, l'un des deux maîtres. Ah, je parle pas bien, quoi.
Ah, mais parce que je pensais en premier à Elanka.
Ah non, moi c'est Harachi.
D'accord, d'accord.
Et donc, Dahman Harachi.
Donc, bah, alors, lui aussi un très grand chanteur et très très grand représentant des chants de l'exil, puisque bah, lui, plus encore que Mazzoni, même si c'est devenu une vedette de la chanson, il a été ouvrier, il a subi les conditions de travail, le racisme, etc., avant de devenir une vedette de la chanson. Et en plus, il chante le Chabi algérois d'une façon écorchée, juste par sa voix rauque, ce qui rajoute encore de l'émotion à tout ce qu'il peut porter comme, comme sens. Et donc Darben El Arachi, il a été réédité par Sonia Disc, ce petit label marseillais.
Mmh. Ok, très bien. Et ben voilà, l'une des missions touche à sa fin. On se retrouve le premier mercredi.
Mercredi 4 novembre.
4 novembre, très bien. Merci beaucoup Damien.
Ben, merci.
Et puis...
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt.
Écoute, Darben El Arachi, au revoir.
الصح والصدق والصفاء
صدق والصفاء
على شرايك تلف تجري بلا عقل ما يدوم غير الله واللي ما شفا
واللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل أخي كل ما عمل كنوف تقول موس الماضي عمره ما حفاظ راو عارف روحو يشالي بلا سيوف ولا تقول يتمشى على الشوك بالحفاظ داير روحو ما يسمع ولا يشوف حتى رجعت منه دادو خايفة يا أخي دادو خايفة ما يدوم غير صح والصدق والصفاء
الصدق والصفاء
على شرايك تلف تجري بلا عقل ما يدوم غير الله واللي ما شفا
اللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل أخي كل ما عمل بصحابه تلايم وصفوف شحال منهم خان العهد ما وفى واحد سعدو ايامه في الكاف ما يحوف والاخر يطلب غير العفو والمسعفة واللي صافي في قلبه ما عليه خوف واللي نقصه بفعلو نشفى يا اخي فعلو نشفى ما يدوم غير صح والصدق والصفاء
الصدق
على شرايك تالف تجري بلا عقل وما يدوم غير الله واللي ما شفا
اللي ما شفا
نعمل أخي كل ما عمل بابي العقل هايم صار مخطوف عيت ما نصبر في قلبي ما كفى ما نغير حالي واللي راح مخلوف عيت ما نتمم والوعد بالجفا ما بقى لي نحكي سري عود مكشوف والعفو من الإله للناس كفى يا أخي للناس كفى ما يدوم غير الصح والصدق والصفا
الصدق والصفا
على شرايك تلف تجري بلا عقل ما يدوم غير الله واللي ما شفا
اللي ما شفا
راه يندم في حياته كل ما عمل أخي كل ما عمل كل ما عمل أخي كل ما عمل كل ما عمل أخي كل ما عمل